à Montréal et de vous revoir. Aujourd'hui, on veut vous parler des masques. D'abord, on a eu beaucoup d'ouvertures d'entreprises, de commerces, de services au cours des dernières semaines. Puis, honnêtement, ça se passe bien. Donc, quand on regarde le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations, le nombre de décès, on voit qu'il y a une baisse constante. Donc, c'est encourageant. Mais, faut être prudent. Faut être prudent quand on regarde, entre autres, ce qui se passe chez nos voisins du Sud. Je pense, entre autres, à la Floride, que les Québécois connaissent bien, mais aussi la Californie, le Texas. On pensait dans ces États que la propagation du virus était sous contrôle, mais on s'est rendu compte depuis une semaine ou deux là qu'il y a une forte augmentation du nombre de cas. Toutes sortes de raisons, mais essentiellement parce que les gens sont davantage réunis et se sont contaminés. Donc, on voit que dans certains États aux États-Unis, on est obligé de reconfiner, donc mettre des restrictions, entre autres, dans les bars. Parce que on le voit aussi au Québec, là, c'est difficile de respecter le 2 mètres, surtout après quelques verres, c'est ça qu'on me dit. Donc, très, très important de respecter les consignes. Parce que la dernière chose qu'on voudrait au Québec, c'est de revenir à où on était il y a quelques mois. Donc, de revenir dans une situation où il faut reconfiner, où il faut reculer, mettre des restrictions, fermer des commerces, des entreprises. Je pense qu'il y a personne qui veut ça. Évidemment, je l'ai dit souvent, et puis c'était démontré, depuis le début de la crise, les Québécois ont été extraordinaires. C'est ici, là, et puis on dit pas ça à travers notre chapeau, il y a eu des applications qui l'ont démontré. C'est ici, au Québec, que les gens ont fait le plus attention. C'est ici qu'ils ont respecté le plus les consignes. Quand on regarde les 60 États et provinces en Amérique du Nord, c'est ici qu'on a plus suivi les consignes. Et depuis qu'on a commencé à rouvrir les entreprises, les différents services offerts à la population, ben le mot d'ordre qu'on s'est donné, c'est d'y aller progressivement. Le mot, là, que j'ai peut-être répété le plus souvent dans les dernières semaines, c'est d'y aller progressivement. Donc, rappelons-nous, on était, d'abord, on demandait aux gens de rester à la maison, que seulement, que les personnes sortent seulement pour aller à l'épicerie ou à la pharmacie ou chercher un service qui est essentiel. Ensuite, on a ouvert davantage les services graduellement. On a mis en place une consigne où on a recommandé le masque. Donc, de ce côté-là, aussi, on est allé graduellement, donc en recommandant de mettre un masque quand on n'est pas capable de respecter le fameux 2 mètres. Je pense que tout le monde, on se rend compte qu'on est plus prudent, même. C'est parfois spécial de voir des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, puis de rester à 2 mètres, c'est pas toujours facile. Mais on voit que les habitudes sont en train de changer. Puis quand on a mis en place le masque, ben on a demandé, entre autres, que le masque soit porté dans les endroits où il y a beaucoup de monde, entre autres les transports en commun. On a fait une opération qu'on a lancée à partir d'ici avec la mairesse de Montréal, Valérie Plante, que je veux d'ailleurs remercier. Je veux remercier aussi toutes les sociétés de transport qui ont distribué des masques, qui sont assurés que cette recommandation-là, c'est comme ça qu'il faut faire, on y est allé de façon progressive. Mais évidemment, plus on réouvre les entreprises, plus on réouvre les commerces, ben plus il y a de monde dans le transport en commun, plus il y a de monde dans le métro, plus il y a de monde dans les autobus. Puis là, je pense qu'on est rendu à une nouvelle étape. Donc, évidemment, on l'a dit souvent, il y a des changements, mais c'est une évolution, puis il va continuer d'avoir une évolution. Donc, on est rendu aujourd'hui à une nouvelle étape. C'est pour ça que je vous annonce qu'à partir du 13 juillet, donc pas lundi qui vient, l'autre lundi, les masques vont maintenant être obligatoires dans les transports en commun. Donc, il n'y aura pas de police, là, mais on va demander aux gens qui gèrent les sociétés de transport d'interdire l'entrée dans les transports en commun aux gens qui ont pas de masque. Et je pense qu'on est rendu là, puis c'est une question de respect. Je l'ai souvent répété, le masque, c'est beaucoup plus pour protéger les autres que pour se protéger soi-même. Et c'est une question de respecter les autres. Donc, c'est pas une question, là, j'en entends certains traiter ceux qui portent pas de masque de peureux ou de pot-off, ou appelez ça comme vous voudrez. Pas ça, là, l'idée. C'est qu'une personne qui porte un masque parce qu'elle respecte les autres personnes, puis au cas où elle soit infectée, ben elle veut pas infecter les autres Québécois. Donc, c'est vraiment une question de respect. Ce qu'on fait, le règlement qu'on met en place, ça va s'appliquer à tous ceux qui ont 12 ans et plus. Donc, ça va s'appliquer dans tous les transports en commun, dans toutes les régions du Québec, pour les enfants de 12 ans et plus. Les enfants de 2 à 12 ans, ça va être recommandé, même fortement recommandé, mais pas obligatoire pour les enfants. Puis pour ce qui est des enfants de 0 à 2 ans, ben il y a des risques en portant un masque pour ces enfants-là. Donc, c'est pas on demande aux enfants de 2 ans et moins de ne pas porter de masque, là. Donc, fait pas exprès pour rendre ça compliqué, là. Mais 2 à 12 ans, fortement recommandé, mais pas obligatoire. Puis 12 ans et plus, obligatoire. Bon, évidemment, on va laisser une période de transition. Donc, on va demander aux sociétés de transport, à partir du 13 juillet, d'aviser que c'est maintenant obligatoire. Mais on va laisser un 2 semaines de transition, donc jusqu'au 27 juillet, avant de vraiment commencer à interdire l'entrée dans le métro, dans les autobus, aux personnes qui ont pas de masque. Donc, ça va donner la chance aux gens, pendant ces 2 semaines de transition, s'ils n'ont pas de masque, s'en procurer. On va essayer d'aider, comme on a commencé à le faire, à fournir des masques à certains endroits. Mais à partir du 27 juillet, là, les gens ne pourront plus entrer dans les transports en commun s'ils portent pas de masque. Bon, il y a des gens qui vont demander, vous rendez le masque obligatoire dans le transport en commun. Qu'est-ce qui arrive dans les commerces? Qu'est-ce qui arrive dans les lieux publics où il y a beaucoup de monde? Ça continue d'être fortement recommandé, mais pour l'instant, je dis bien pour l'instant, c'est pas obligatoire. Donc, on n'exclut pas éventuellement de rendre le masque obligatoire ailleurs que dans les transports en commun. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs, entre autres l'évolution du nombre de cas, l'évolution de la pandémie, mais aussi, on veut encore là y aller progressivement. Je pense que une des raisons pourquoi on a bien réussi au Québec, c'est justement parce qu'on est allé progressivement. On n'a pas commencé à mettre 12 mesures tout d'un coup, on est allé progressivement, les gens s'habituent progressivement. Donc, pour les commerces et les lieux publics, pour l'instant, c'est fortement recommandé de porter un masque, mais c'est pas obligatoire. Je conclue en vous disant que je comprends que c'est pas agréable de porter un masque. Surtout l'été, il fait chaud. Avec le masque, c'est encore plus chaud. Donc, c'est pas agréable. Mais en même temps, c'est nécessaire si on veut pas revenir en arrière. Donc, si on veut pas être obligé de reconfiner, si on veut pas voir ce qui se passe dans certains États aux États-Unis, ben c'est important de prendre nos précautions. Et puis, il faut le faire par respect. Donc, je demande à tous les Québécois, par respect pour les autres Québécois, de porter un masque quand vous êtes dans le transport en commun. Vous savez, la COVID-19, c'est dangereux, c'est sérieux, il y a encore des décès, c'est relativement facile d'attraper la COVID-19 d'une autre personne qui est trop proche. Donc, soyons plus intelligents que le virus. Donc, je termine en vous disant, quand on porte un masque, on n'est pas peureux, on est juste très respectueux. Donc, merci déjà tout le monde à l'avance de votre compréhension. Good morning.
On va profiter du fait qu'il parle un petit peu anglais pour en discuter ensemble, mm-hmm. Valérie. Là, il dit que ça se passe bien. Il donne l'exemple, par exemple, la Floride, où ça se passe mal.
Ouais.
Donc, mais là, ce que je comprends, c'est que, bon, quand on rend ça obligatoire, c'est une mesure contraignante. La question, c'est comment est-ce qu'il rend ça contraignant? Parce que je vois aucun chauffeur d'autobus qui va se battre avec ses clients.
Non.
Je vois pas. La sécurité est peut-être à l'entrée des métros, mais oui. Si t'étouffes dans ton masque puis ça te provoque de l'anxiété, tu vas l'enlever à l'intérieur du métro. Et là,
ça
les policiers
arriver.
Ne donneront pas de ticket.
Non.
Ceci dit, hey, j'ai une idée. Ça m'arrive rarement.
Vas-y.
les policiers, au lieu de donner une ticket, ils pourraient donner des masques.
C'est vrai. C'est vrai qu'ils pourraient donner des masques. On sait qu'il y a
déjà...
Ils
traînent des sacs de masques avec eux autres, puis ils distribuent des masques en les avertissant. Le monde, sont capables, sont impressionnants.
C'est sûr. Parce que le gouvernement a déjà donné 300 000 masques. Ils ont déjà été donnés, là. Puis on va en offrir encore. Montréal va offrir 1,5. Je me souviens plus du chiffre, mais en tout cas, on va en offrir encore des masques. Mais là, comme tu le dis, c'est que c'est l'accès. C'est l'accès véritablement au métro. Si vous arrivez pour rentrer dans une station de métro, vous n'avez pas de masque avec vous.
Ça va être bloqué à l'entrée.
Ça va être bloqué à l'entrée. Ça, c'est à partir du 27 juillet, par contre. À partir du 13 juillet, on le rend obligatoire, mais on vous laisse quand même une période de 2 semaines pour vous adapter. Il n'y a pas de raison de ne pas en avoir un le 27 juillet.
C'est ça.
Ça va faire 2 semaines.
On vous a laissé tout le temps pour vous préparer. Maintenant, c'est de votre faute.
Exact. Mais pour ce qui est des autobus, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Et il y aura une période de questions à cette conférence de presse. Peut-être qu'à ce moment-là, on verra si les journalistes posent la question à M. Legault. Qu'est-ce qu'on va faire pour un chauffeur d'autobus qui voit entrer des gens qui ne portent pas le masque à ce moment-là? Est-ce que lui ferme la porte de son bus?
Et le pire ennemi, quand on essaie de convaincre les gens de mettre leur masque, pas aux autres, c'est à chaque fois qu'ils voient quelque chose d'illogique et disent « voyez, ça ne se tient pas ». Alors déjà là, de forcer les masques dans le transport en commun puis les autoriser dans les magasins, les gens vont se dire « ben voyons, moi je le mets nulle part, c'est quoi la différence? » C'est la même maladie, que le même monde, on est aussi tassé. Je trouve qu'ils... Moi, à mon avis, ils y vont trop smooth. Bon, ça, c'est moi, ça. Est-ce qu'on revient en français, M. Legault?
Il y a une question par journaliste. On va commencer par Vincent Larrain du Journal de Québec, Journal de Montréal.
Oui, bonjour, M. Legault. Une question précisément pour vous. Vous avez donné une entrevue à ma collègue Geneviève Lajoie le 12 juin dernier. Je vous cite, à propos de l'obligation de rendre le masque obligatoire, « Je pourrais le faire, c'est moi qui décide. Je pourrais si je pensais que c'était bon, mais je pense pas que ce serait bon. » Qu'est-ce qui a changé depuis le 12 juin et qui fait que vous pensez maintenant que c'est une bonne chose de le rendre obligatoire?
Je pensais que j'avais été clair, mais je vais répéter un peu ce que j'ai dit. Ce que je disais tantôt, c'est qu'il faut y aller progressivement. Et évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde dans le transport en commun qu'au moment où j'ai fait cette déclaration. Donc, on l'a vu tout au long de la pandémie, ça évolue, les règles évoluent en fonction du contexte, en fonction aussi de la pandémie, en fonction de ce qui se passe chez nos voisins. Donc, on sent aujourd'hui le besoin d'aller une étape plus loin.
Donc, juste pour comprendre, mais c'est précisément l'augmentation de la fréquentation des transports en commun qui explique ça?
C'est un ensemble de raisons. Vous savez, il y a quelques mois, on demandait aux gens de rester à la maison. J'ai pas changé d'idée là-dessus. À l'époque, c'était ce qu'il y avait de mieux. Là, on a commencé dans les dernières semaines à ouvrir. On voit qu'il y a des personnes qui portent pas le masque dans le transport en commun. On voit qu'il y a de plus en plus de monde. On voit que dans certains États, je ne sais pas si on parle d'un retour de la première vague ou une deuxième vague, mais on voit une augmentation des cas et on veut y aller progressivement. Donc, puis je le disais, là, ça se peut que dans deux semaines, veniez me voir, me dire, Monsieur Legault, vous avez dit de pas porter le masque, c'est pas obligatoire dans le commerce, puis là, vous nous dites qu'il est rendu obligatoire. Ça se peut. C'est pas parce qu'on fait un 180 degrés, 180 ou 360, 180, c'est parce que la situation évolue, puis il faut y aller progressivement.
On va passer à Michel Jean, de TVA Nouvelle.
Bonjour, Monsieur Legault, bonjour à tous.
Bonjour.
Monsieur Legault, vous nous avez dit tantôt que la situation était encore dangereuse, qu'il y avait du danger, etc. Là, si je comprends bien, on attend deux semaines avant de le mettre en place, deux semaines avant de le rendre complètement obligatoire. Si c'est dangereux, pourquoi attendre un mois?
Ben, écoutez, on aurait pu vous dire aussi, on le fait en septembre, lors de la rentrée, là, mais étant donné, à un moment donné, c'est une question, il n'y a pas de réponse blanc ou noir, là. C'est juste une question, il faut donner le temps aux gens de s'habituer. On l'annonce maintenant pour dans deux semaines. À partir de dans deux semaines, les autorités des sociétés de transport vont dire aux gens, hey, la prochaine fois, vous serez pas acceptés. Donc, je pense que c'est une question. Là, la réponse, c'est d'y aller graduellement.
Une question sur l'accord de libre-échange qui entre en vigueur demain. Comment vous réagissez à ça? Êtes-vous inquiet? À vos peurs, par exemple, pour l'aluminium, les sanctions, etc.?
Grosse question. D'abord, j'aime mieux avoir une entente avec les États-Unis et le Mexique que de pas d'avoir d'entente. Hein? On se rappelle que le Canada, puis le Québec en particulier, exporte beaucoup plus aux États-Unis qu'on importe. Donc, on a une balance commerciale positive. C'est à peu près le seul pays avec qui on a une balance commerciale positive. Donc, on a beaucoup plus à perdre s'il n'y avait pas d'échange que s'il y a un échange. Bon, maintenant, concernant l'aluminium, on a essayé de se battre pour éviter que l'aluminium de Chine rentre indirectement aux États-Unis, parce que c'est ça qui est le problème actuellement. La surcapacité vient d'aluminium qui vient indirectement de Chine. J'en ai discuté avec Justin Trudeau la semaine passée. Je pense qu'il faut être relativement ferme avec les Américains. Il faut utiliser toutes les possibilités légales qu'on a. Ça veut dire, est-ce que nous, on doit penser, malgré la nouvelle entente, à taxer des nouveaux produits américains qui rentrent ici au Canada en échange de ce tarif sur l'aluminium? Mais, évidemment, le premier choix, c'est que il n'y ait pas de tarif sur l'aluminium. Bon, évidemment, il y a une élection au mois de novembre, donc on va suivre le résultat, mais c'est sûr que ça nous ferait très mal, puis moi j'ai demandé au gouvernement fédéral d'être très dur avec les Américains pour éviter ce tarif sur l'aluminium.
C'est une question que j'ai oubliée, on a vu les images en fin de semaine, là, des gens qui se baignaient.
Ouais.
Comment vous réagissez à voir, vous avez vanté tantôt la discipline des Québécois qui ont respecté les règles. On constate que c'est pas le cas actuellement. On voit les gens sont pleins à Rawdon, la plage, les gens qui sont en costume de bain, avec pas de masque, etc., des foules. Comment vous réagissez à ça, vous, M. Legault?
Ben, c'est inquiétant, mais c'est une question psychologique. Quand on regarde au mois de mars, avril, les gens en faisaient plus que moins parce qu'ils avaient peur. Là, on dirait qu'il y a certaines personnes qui ont moins peur, qui regardent la baisse du nombre d'hospitalisations, du nombre de cas, du nombre de décès, puis qui se disent « bon, il n'y a plus de danger, faut être prudent ». Et donc, j'aime pas ça, voir ça, là, des gens qui respectent pas le 2 mètres, que ce soit à Rawdon ou que ce soit dans un bar, j'aime pas ça. Puis je pense que une des raisons aussi de ce qu'on annonce aujourd'hui, c'est de dire aux gens, attention, là, on ajoute une directive où on dit le masque à partir de maintenant va être obligatoire dans les transports en commun. C'est pas pour rien, là. C'est parce qu'on dit il y a une possibilité d'une deuxième vague et faites attention. Donc, il va falloir travailler fort, moi le premier, là, puis je le dis aux Québécois, là, faites pas ce qui est arrivé à Rawdon, là. C'est très dangereux. Regardez ce qui s'est passé en Californie. Il y a eu une fête, je pense que c'est le Memorial Day, puis là, tout à coup, les cas ont explosé. Donc, c'est encore là. Le virus, c'est encore là. Puis, il faut pas avoir des activités où on est à moins de 2 mètres des autres. Le virus rôde toujours autour.
On va y aller avec Pierre Saint-Arnaud, la presse canadienne.
Bonjour, M. Legault. M. Arruda. question qui m'intrigue un peu. Vous savez très bien là, que le public en général a reçu beaucoup de messages contradictoires concernant le masque. D'abord, on le recommandait pas. Ensuite, on l'a recommandé. Ensuite, fortement recommandé. Maintenant, on le rend obligatoire là, mais pas dans les commerces encore. Encore hier, le Dr New à Ottawa disait « Moi, je préfère que les gens soient encouragés plutôt que de réglementer. » Parce qu'il craint une réaction épidermique. Comment est-ce qu'on fait pour que les gens comprennent le message malgré tous les messages contradictoires, d'une part, et d'autre part, à partir du 27 juillet, physiquement, il se passe quoi dans un autobus lorsque quelqu'un se présente et qu'il est récalcitrant? Vous savez que ça va arriver, c'est inévitable, ça va se produire dans le métro, ça va se produire dans les autobus, ça va se produire dans les autobus en région éloignée aussi. On fait quoi physiquement à ce moment-là?
Bon. D'abord, pour ce qui est de l'évolution des consignes, c'est normal qu'il y ait une évolution des consignes. Je veux dire, on n'était pas pour exiger à tout le monde de porter un masque quand tout le monde est à la maison. Donc, c'est sûr que plus on ouvre, plus il y a de risques, plus on ajoute des consignes. Ça, c'est normal, c'est une évolution, puis ça va continuer de se faire. Puis, un, on veut y aller progressivement. Deux, on veut aussi tenir compte de la situation, de l'évolution du nombre de cas ici, mais aussi chez nos voisins, ailleurs dans le monde. Est-ce qu'il y a une deuxième vague ou un sursaut de première vague? Là, les spécialistes sont pas tous d'accord là-dessus. Bon, pour ce qui est de la réglementation, bien, on demande aux sociétés de transport... Quelqu'un me disait, un exemple, hier, il va se reconnaître, si quelqu'un veut rentrer avec un sofa dans un autobus, le chauffeur, il va pas le laisser rentrer avec un sofa dans un autobus, ben à partir de maintenant, on peut pas rentrer dans un autobus si on n'a pas un masque, là, ben, je veux dire, à partir du 27 juillet.
Oui, mais comment on met ça en vigueur, là? Les chauffeurs d'autobus, c'est pas des policiers, puis c'est pas des fiers à bras non plus, là.
Ouais. Mais il y a des règles. Les règles doivent être respectées. Quelqu'un qui rentre dans l'autobus, il paye, ou il y a un ticket, ou il y a une passe. Là, il y a une règle qui s'appelle avoir un masque.
On va passer à Valérie Bain de Radio-Canada.
Oui, bonjour. Un peu dans la même ligne. Disons que la personne rentre dans l'autobus ou dans le métro avec son masque ou il y a quelqu'un dans le transport en commun qui l'enlève et qui ne le porte pas. De quelle façon est-ce qu'on gère les conséquences, qui les applique et peut-être aussi élaborer, la mairesse parlait du fait que qu'est-ce qu'on va faire pour les inciter, en donner à ceux qui en ont pas? Est-ce que vous avez mentionné qu'il y a possibilité d'en distribuer? Quelle est votre approche par rapport à ça?
Bien, ça coûte quelques dollars, un masque. On en a donné, puis on va continuer d'en donner. On a des réserves. On est en train de voir avec les sociétés de transport, là, ceux qui en ont acheté, ceux qui en ont pas acheté, de les aider, surtout les premières semaines, à les donner. Mais en même temps, moi, je compte sur la responsabilité des Québécois. Je pense que au Québec, on est solidaire des autres. On est respectueux et je pense que c'est ça qui est le plus fort. Mais juste de dire que c'est obligatoire, c'est déjà un message, là. Ça veut dire que même un citoyen face à un autre citoyen peut dire à l'autre citoyen « Hey, c'est obligatoire de mettre un masque ». Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que le fait que ça soit obligatoire, là, on mettra pas une armée ou des centaines de milliers de policiers pour vérifier, mais je veux dire, moi, je pense aussi qu'il y a une question de responsabilité, puis on dit c'est obligatoire. C'est sûr que ça va être plus facile, par exemple, à l'entrée du métro, parce qu'il y a des gens qui peuvent voir avant d'entrer un métro. Peut-être plus compliqué dans les taxis. Ben là, je pense que les chauffeurs taxis, les Uber, je pense que c'est une question de se protéger aussi, d'exiger que le passager porte un masque. Je pense que c'est une question de respect.
Est-ce que ça va être passible d'une amende? C'est un peu ça là où je voulais en venir aussi.
Non, il n'y a pas d'amende. C'est la seule conséquence négative, c'est de ne pas avoir accès.
Une question sur le tramway, est-ce que c'est possible pour les collègues de Québec au sujet de l'annonce? Essentiellement, on sait que, pour respecter le budget de 3,3 milliards de dollars, Québec va abandonner le trambus. Le trambus devait coûter 580 millions de dollars pour circuler d'est en ouest dans la base ville. Le problème, c'est que le tram coûte plus cher que prévu. Est-ce que vous avez insisté d'ailleurs pour que le budget soit respecté. Est-ce que la nouvelle mouture du projet est toujours appuyée de votre côté? qui vous êtes essentiellement le principal bailleur de ce projet-là?
Oui. Bien, écoutez, j'ai parlé avec Régis Labeaume la semaine dernière de cette situation. Je lui ai demandé de nous donner un certain temps pour étudier le nouveau projet. Si vous vous rappelez, en 2018, la CAQ avait demandé, avant d'appuyer le projet, que les banlieues à Québec soient bien desservies. Parce que c'est important, là, on peut pas juste avoir la partie tramway au milieu, faut que les banlieues soient bien desservies. Donc, ce que j'ai demandé à Régis Labeaume, c'est de nous donner un peu de temps pour bien analyser la desserte des banlieues. Monsieur Labeaume m'a dit que, un, il y avait l'appui des maires des banlieues, puis qu'il était donc satisfait de la desserte, puis que ça changeait pas grand-chose, le nouveau projet, sur la desserte des banlieues. Je veux m'assurer de ça. Donc, on va prendre un certain temps pour étudier le nouveau projet, mais pour moi, c'est une condition qui reste incontournable. Les banlieues à Québec doivent être bien desservies par le projet.
On va prendre la prochaine question.
Oui, bonjour, Philippe Mercure du journal La Presse. L'Union européenne a annoncé qu'elle allait ouvrir ses frontières aux Canadiens. Il y a peut-être beaucoup de Québécois aujourd'hui qui reconsidèrent peut-être la possibilité de prendre des vacances en Europe, en France, ailleurs. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui à ces Québécois-là?
Voulez-vous y aller?
Oui, écoutez, il faut comprendre, il faut regarder la situation épidémiologique là-bas en termes de transmission. Et je peux vous dire, avec ces réouvertures-là, on va faire l'évaluation pour vérifier si on ne va pas demander aux gens de rester en quarantaine pendant 14 jours. Il va y avoir des discussions avec le fédéral, bien entendu, parce que la loi de quarantaine est sous sa juridiction. Mais au besoin, au Québec, on pourrait exiger une quarantaine supplémentaire si c'est pas fait par Ottawa, dans une perspective où, parmi les conditions de l'OMS, une des conditions de l'OMS pour déconfiner et maintenir le déconfinement, c'est de diminuer, l'importation de cas à l'extérieur. On est aussi préoccupé, si vous me permettez, par la frontière américaine, parce qu'on sait que dans les États de l'Est, notamment jusqu'en Floride, il y a énormément de cas. Donc, c'est des discussions qu'on a actuellement avec notre ministre et le premier ministre. Et on va voir, tout dépendamment de quelles sont les décisions que le fédéral va prendre, quel sera notre plan de contingence pour éviter une introduction massive de cas à travers importés des autres pays.
On va y aller avec Sabrina Rivet de Cogeco.
Oui, je viens de lire quelques commentaires sur les réseaux sociaux de gens qui disent qu'ils veulent maintenant peut-être bouder les transports en commun en raison du port du masque. Est-ce que vous pensez que ça va réduire possiblement l'achalandage dans les transports en commun, de rendre obligatoire le port du masque?
J'espère que non, mais je pense pas que non. Je pense que ça va être des exceptions. Les gens qui vont dire, si je suis obligé de porter le masque, j'utiliserai pas le transport en commun, je vais prendre mon auto, là. Je pense que ça va être minime.
Prochaine question.
On va reprendre ici, puisque d'après moi, ça, à un moment donné, ça va, si on veut tout retenir, il y a tellement, tellement de choses. Tu vois, je parlais de l'espèce de côté sceptique que beaucoup de gens dans la population ont à cause des contradictions. Puis là, bon, pourquoi? Ah, on retourne au point de presse parce que là, il y a quelque chose qui se dit. On y revient après, ça ne sera pas long.
Avec des modélisations du nombre de contacts significatifs qu'on a avec d'autres Québécois depuis le début du déconfinement. Bon, avant tout le confinement, avant la pandémie, on évaluait ça à 12, pendant le confinement à environ 4. Êtes-vous capable aujourd'hui de dire à combien nous en sommes? Et je sais que souvent, le nombre de 8 ou plus rimait avec une deuxième vague. Comment se fait-il donc que nous n'en sommes pas à une deuxième vague?
Il y a plusieurs facteurs, là. Ça, ce sont des éléments à l'intérieur. Il faut comprendre que les facteurs qui vont générer une deuxième vague vont être multiples. Ça, c'en est un élément. Ce qu'on a remarqué, par contre, depuis le déconfinement, sans qu'on ait augmenté le nombre de cas hospitalisés ou de patients décédés, on a augmenté qu'à chaque fois qu'il y a un cas, il y a un peu plus de contacts. Donc, comparativement au moment où les gens étaient en confinement, un cas pouvait générer 2-3 contacts significatifs, alors que là, on est en train de remarquer un peu partout au Québec une augmentation. C'est pas encore dramatique, mais c'est un indicateur qui nous dit que des gens se déplacent plus, etc. Puis moi, là, je veux insister, là, le premier ministre le fait, le port du masque, le couvre-visage, actuellement, ça doit devenir une norme sociale. Ça doit devenir un nouveau standard, tant et aussi longtemps qu'on va être dans une période, je vous dirais, de non-normalité. Parce que on sait que la distanciation de 2 mètres, c'est la chose à faire, mais on sait que dans la vie, on est amené à se retrouver souvent en dedans du 2 mètres, et c'est pour ça que je porte le couvre-visage, je protège l'autre, l'autre porte le couvre-visage et protège l'autre. Ça vient ajouter à l'hygiène respiratoire. Distanciation, hygiène des mains, port du masque, je pense qu'il faut le faire. Et sinon, on va se retrouver dans des situations où on va revoir des flambées, puis on va être obligé de reconfiner des choses qu'on pourrait, parce que on est déconfiné, mais en libération conditionnelle, c'est ce que je dis, c'est qu'il y a des conditions à respecter. Prenons, si dans les bars, les gens se mettent à, ça devient des nids à éclosion, on va devoir intervenir, puis fermer. Et ça, je pense qu'il faut que les gens le comprennent. Dès maintenant, attendez pas d'être obligé pour porter le couvre-visage. Moi, je le porte. Ça doit, avec nos clés, quand on sort à l'extérieur, on devrait toujours avoir notre couvre-visage pour être prêt au cas où on aurait des contacts en bas de 2 mètres dans les situations de vie quotidienne.
Sinon, rapidement, sur le développement d'un vaccin, bon, on n'est pas encore rendu là à travers le monde. On est encore à l'étape des essais cliniques dans la plupart des cas. Ceci dit, dans la perspective où un vaccin devait être développé pour la COVID-19, peut-être que ça pourrait s'adresser à M. Dubé, M. Legault aussi. Est-ce qu'il y a un monde où on pourrait rendre le vaccin obligatoire aussi, comme le masque, pour s'assurer là qu'une portion de la population suffisante est vaccinée?
Peux-tu y aller?
Oui, écoutez, dans les faits, il faut comprendre que ça va dépendre de la qualité du vaccin, puis ça va dépendre de quel va être l'objectif de vacciner. Prenons par exemple, pour la grippe, on ne vaccine pas tout le monde, on vaccine les personnes les plus à risque de complications. Si on regarde le comportement du coronavirus actuellement chez les enfants, et qu'on regarde que chez les enfants, il n'y a pas de grandes maladies et qu'ils ne sont pas des gens qui contaminent les autres, la stratégie probablement qui serait utilisée, tout dépendamment de la réponse immunitaire aussi qui génère chez certains groupes, ce serait de vacciner les personnes les plus âgées, les personnes les plus à risque, les gens qui ont des maladies chroniques, des gens qui ont des maladies immunitaires. Fait que ça, je pense que ce serait comme ça, la plus logique, surtout quand on est en développement d'un vaccin et que la quantité sera initialement un peu limitée, parce que tous les pays vont vouloir l'avoir. Donc, et ça va dépendre, tout ça, de ce que va donner les résultats. Est-ce que le vaccin va être protecteur chez les personnes âgées ou pas, parce qu'ils vont être capables de développer une immunité? Ça va dépendre, à ce moment-là, de la qualité du vaccin. C'est trop tôt pour le dire, mais je vous dirais qu'une bonne hypothèse, c'est qu'on vaccinerait les personnes à haut risque.